Bien, mesdames, messieurs, bonjour, merci d'être là. Le 12 juillet de 1520, à l'âge de 49 ans, Dürer s'embarque pour un voyage pour les Pays-Bas qui va durer environ une année. Il va parcourir plus ou moins 1000 kilomètres, c'était long pour l'époque. Il va tenir un journal qui est l'un des documents les plus importants de l'histoire de l'art du XVIe siècle. La gravure de Erhard Schön, que vous voyez à droite, le montre, l'inscription d'ailleurs le dit, à l'âge de 56 et 57 ans, donc après ce voyage. Il faut l'imaginer, si on fait ce petit exercice d'imagination, il faut s'imaginer un Dürer à 49 ans entre le portrait iconique de 1500 et la gravure de 1000, beaucoup plus tardive, plutôt, moi je le verrai, à côté de la gravure. On voit donc un portrait de médaille dans le genre des portraits commémoratifs. Celui-ci remplace l'immobilité hiérarchique de l'icône. Se profile ainsi néanmoins, mais d'une autre manière, je dirais, sur les enjeux du regard. Si dans le portrait de 1500, le regard de Dürer, ses yeux se pliaient au topos de l'œil, miroir du monde, on pourrait dire que ce que la gravure montre, c'est plutôt un œil perçoir, un œil perçant, attentif, aigu, mobile aussi, curieux. La première page du journal ne laisse pas du tout deviner ce genre de regard. Et je voudrais vous citer justement cette première page du journal de Dürer. Vous la voyez dans l'inscription originale à droite. Je vous fais grâce un peu de l'allemand ancien et je la cite dans la traduction de Stan Hugues. Alors, la toute première page donc, de ce célèbre journal. À mes frais et dépenses, le jeudi après Saint-Quillian, on est jeudi donc 12 juillet 1520, moi, Albrecht Dürer, je pars avec ma femme pour les Pays-Bas. Après avoir passé le même jour par Erlangen, nous faisons escale à Beiersdorf, où je dépense 3 livres moins 6 pfennig. Le lendemain, le vendredi, nous arrivons à Forchheim et je paye 22 pfennig pour le transport. Puis de là, je pars pour Bamberg, où j'offre à l'évêque une peinture de la Vierge. La vie de la Vierge et une apocalypse. J'explique un peu, donc, une peinture de la Vierge, lorsqu'il dit la vie de la Vierge, ça veut dire tout le cycle de gravure avec la vie de la Vierge, et une apocalypse. Et ça me semble très intéressant comme la façon dont il traitait ses œuvres d'art. Donc, un cycle de l'apocalypse, pour lui, c'est... Il offre une apocalypse, donc le cycle entier. Et des gravures pour la valeur d'un florin. Donc c'est le cadeau à l'évêque, d'accord ? Je me garde pour hôte, il me garde pour hôte, et me remet un laissez-passer. Plus 3 lettres de recommandation. Et il règle ma note à l'auberge, où j'avais dépensé environ un florin. Je paye 6 florins d'or au batelier qui me conduit de Bamberg à Francfort. Maître Lucas Bénédicte et Hans, le peintre, m'offrent du vin. Je donne 4 pfennig pour du pain et 13 pfennig, un cadeau d'adieu. C'est de la petite histoire, mais de la petite histoire assez significative qui nous fait voir un peu la façon dont un peintre de la stature de Dürer pouvait voyager à cette époque. Alors, on voit que pour passer les frontières, on a besoin de laisser passer. On voit aussi qu'il s'agit d'un troc, les œuvres d'art, contre des avantages. Ce n'est pas pour la première fois que, cette petite épicerie apparaît dans des livres d'artistes. On en connaît depuis la Renaissance ou même depuis le Moyen-Âge tardif. Le plus célèbre entre tous, le premier des plus célèbres entre tous, est le livre de Neri di Bicci. Le livre de Ricordanze, écrit entre 1453 et 77, qui note dans ce livre, aujourd'hui conservée au musée des Offices de Florence, toutes les œuvres réalisées dans son atelier, les ventes, ce qu'il avait reçu pour chaque œuvre. Donc c'est un livre de comptabilité. Et c'est aujourd'hui encore un des témoignages indiscutables des pratiques artistiques florentines au Quattrocento. Un autre exemple, Lorenzo Lotto, Libro di spese diverse, 1538-56. Là, il note aussi certaines rencontres, certains cadeaux qu'il reçoit. Mais je reviens à Durer. Ce que le journal de Durer apporte face à ces documents est justement, il me semble, le fait qu'il s'agit d'un témoignage concernant un artiste en route. Le mobile de ce voyage est clair et sans équivoque. On le comprend tout de suite si on le lit. Durer veut récupérer la pension accordée par l'empereur Maximilien I, décédé en 1519, donc un an avant. Il avait rendu hommage à cet empereur, vous vous rappelez sans doute, dans sa Vierge du Rosier de 1506, quand il n'était pas encore empereur. J'essaie de le montrer la dernière fois, il a joué sur un couronnement symbolique dans cette grande œuvre avant le couronnement réel. Et il avait créé d'ailleurs aussi l'imaginaire politique de l'empereur avec une force sans précédent. Donc il était le peintre, celui qui a créé l'image publique de l'empereur. Pour entrer dans ses droits, il devait rencontrer et convaincre les héritiers de Maximilien. Dame Marguerite, fille du défunt empereur, qui habitait aux Pays-Bas, et son héritier au trône, le futur empereur Charles Quint. Donc l'enjeu était de grande envergure. À la fin du voyage, Durer, on le verra, a gain de cause, mais il semble que plus important que son entrée dans les droits est en fin de compte ce qui se tisse en marge de cet itinéraire à travers des rencontres et des découvertes. Lu avec attention, le journal de Durer aux Pays-Bas tisse une histoire d'une rencontre avec l'autre, avec l'ailleurs, et à travers l'autre et l'ailleurs, avec soi-même. Et ce sera la façon dont je voudrais focaliser mon interprétation. Cet itinéraire nous dévoile le moi de Durer d'une façon beaucoup plus directe et sans voile qu'il ne faisait l'autoportrait de 1500. On pourrait même dire que ces autoportraits, celui-ci notamment, exhibaient un surmoi, pendant que ce journal dévoile son moi profond, son moi réel. Les notations d'ailleurs ne sont pas faites en vue d'être lues par un étranger, d'où le manque total de phare, le manque total de maquillage. Et vous verrez, on va entrer un peu dans les méandres de cette personnalité qui démythise un peu justement cette image canonique encore aujourd'hui de Durer, mais l'humanise aussi. Un exemple. Le 4 octobre 1520, Durer, qui s'est trouvé déjà en Anvers, mais sans Agnès, donc il était en Anvers avec Agnès, sa femme, je vais revenir, quitte la ville flamande pour Aix-la-Chapelle pour assister au couronnement du nouveau roi. Et il porte avec lui un calepin où il dessine ce qu'il voit et aussi des gens qu'il rencontre. Dans le journal, il y a des notes me semblent importantes. Par exemple, il dit « Jeudi le 4 octobre, après Saint-Michel, je pars d'Anvers pour Aix-la-Chapelle. J'emporte en plus avec moi un florin, un noble à la rose, et j'arrive le dimanche à Aix-la-Chapelle, après avoir passé par Maastricht et par Gulpen. Jusqu'à présent, mon voyage, tout compris, m'a coûté 3 florins. Donc, livre de compte, c'était son droit d'ailleurs, non ? C'était utile. À Aix-la-Chapelle, je vois les colonnes superbement proportionnées. Et maintenant, c'est la notation d'un œil d'artiste. Et les dessins montrent en effet comment cette notation textuelle se marie avec des notations figuratives. Je vois les colonnes superbement proportionnées avec leurs chapiteaux de porphyre rouge et vert, ornées des pierres de que Charles a fait venir de Rome pour les faire encastrer. Elles sont faites très artistement après les écrits de Vitruve. Donc, toute cette culture figurative ressort dans cette notation. J'achète à Aix-la-Chapelle une corne de bœuf pour un florin d'or. Ce passage entre la notation artistique et la curiosité presque marchande peut impressionner. Je dessine au fusain les portraits de M. Hans Ebner et de Georg Schlauterbach. Je fais une autre fois celui de Hans Ebner. Je dépense 2 stuvers pour de la pierre à aiguiser, 5 stuvers pour un bain et pour boire avec mes compagnons. Je change un florin pour mes dépenses d'entretien. Je donne encore 2 pfennigs blancs au domestique de la ville qui m'a conduit à la salle. Je paye 5 pfennigs blancs au bain et en boisson avec les camarades. Et je perds 7 stuvers au jeu avec Hans Ebner et à l'auberge zum Spiegel. Dürer perdant au jeu. Voilà. Peut-être une surprise, mais qui fait partie justement de cette façon de se redimensionner aux yeux du lecteur d'aujourd'hui, de cette figure presque mythique. Alors, on peut feuilleter un peu son album de dessins pour voir comment les notations des chefs-d'œuvre d'architecture sont suivies par des portraits qu'il dont les modèles sont notés parfois dans son journal, ce regard aigu, sa curiosité vis-à-vis des visages humains qu'il rencontre. Il me semble aussi intéressant que dans ce cahier, et je passe maintenant aussi à d'autres feuilles, il y a dans le déploiement du calepin très souvent des mises en ensemble de notations, de visages et d'œuvres d'art. C'est apparemment ce qui l'intéressait le plus. Le visage humain d'un côté, les œuvres d'art qu'il rencontre de l'autre côté. Donc, portrait et dessin d'architecture travaillent ensemble. On sait aussi que, si on lit le journal, que ces portraits étaient parfois réalisés sur commande et très souvent, ils étaient utilisés comme des dons aussi pour recevoir certains avantages. Je vous en montre encore quelques-uns. Parmi les portraits tués, on a aussi des personnages extrême, je dirais. Je voudrais m'arrêter brièvement sur deux de ces modèles, justement pour marquer l'éventail extrêmement large de la curiosité artistique de Dürer vis-à-vis des visages et aussi de son rapport avec ces modèles. Un des exemples, Erasme de Rotterdam, qu'il rencontre en Anvers, grand savant. Il fait ce dessin qui sera la base plus tard pour une célèbre gravure qui sera publiée seulement post-mortem du même savant. On sait très bien, on le comprend dans le journal, mais pas d'une façon très claire, qu'il y a eu un dialogue entre l'artiste et le grand humaniste. Ce grand humaniste, d'ailleurs, qui, à la mort de Dürer, écrira une célèbre lettre dans laquelle il dira « Voilà, est mort Albrecht Dürer, l'appel de notre temps, appel, donc le grand peintre mythique rappelé par Pline l'Ancien, donc le peintre des peintres, et puis il fait un célèbre éloge à son ami peintre déjà décédé. Ça, c'est une borne. L'autre borne, le portrait de Katharina, une serveuse de couleur qu'il avait rencontrée en Anvers, dans la maison d'un de ses hôtes, et dont il fait le portrait. D'ailleurs, il l'écrit dans la partie supérieure, Catharina, 1521, à l'âge de 20 ans. C'est un des premiers portraits d'un homme, d'une personne, d'une femme, de couleur noire. On pourrait se demander un peu quel était le rapport entre le peintre et le modèle. De la part du peintre, sans doute curiosité. On verra que cette curiosité pour l'altérité, pour la différence, va se concrétiser pendant ce voyage au nord. De l'autre côté, si on regarde Catharina, les yeux baissés, elle se laisse portraiturer, pour dire comme ça. Alors, on le sait très bien, l'acte de prendre l'image d'une personne, on a parlé déjà un peu la dernière fois, est un acte de pouvoir. Celui qui prend l'image a le pouvoir, celui qui se laisse prendre l'image est dans une position inférieure. Et cela se voit très bien. Mais on voit aussi la sensibilité de Dürer, qui va au-delà de ses curiosités pour un être de peau noire, plus ou moins des personnages nouveaux, même si en vert, c'est les Flandres, dues donc au commerce d'esclaves de la côte nord de l'Afrique, commençait à être populaire par des servants de ce genre. Mais il y a une certaine, moi je dirais, compréhension, même tendresse dans l'approche de Dürer vis-à-vis de Catharina. Et il y a aussi un autre portrait fait en hâte du roi Christian II de Danemark. Là, on a une notation intéressante dans le journal. Dans le journal, Dürer faisait ses bagages pour s'en aller. Lorsque Christian II, qui était un personnage assez difficile, arrive en Flandre, il dit « J'ai appris que Dürer, le maître Dürer, est ici, je veux qu'il me fasse le portrait. » Donc là, il y a une demande justement d'un personnage de haut niveau. Et Dürer attarde un peu son départ pour faire ce portrait qui est resté, d'après nos connaissances actuelles, seulement dans l'état de dessin. Mais il fait aussi des portraits de collègues et des artistes. Et là, je voudrais m'arrêter un peu parce que cela pose le problème du rapport de Dürer avec ses collègues, les artistes du Nord. Alors, on voit par exemple Bernard van Orley et Lucas de Leyden qu'il portraiture. Et dans le journal, cette rencontre avec les artistes du Nord prend une place spéciale. Je vais m'arrêter un peu sur cette rencontre avec les collègues artistes en rappelant que le séjour à Venise, duquel on a parlé la dernière fois, était un séjour assez difficile du point de vue du contact. Vous vous rappelez peut-être, durant un certain moment, écrit à son ami Pirkheimer, « Bon, ils sont très sympathiques, les Italiens, ils parlent beaucoup, mais les artistes, ça ne va pas beaucoup, il y a de la jalousie, on le comprend. » Et on m'a même conseillé, vous vous rappelez, de ne pas manger et boire avec eux parce que c'est dangereux. Ce danger d'être peut-être empoisonné, on l'a lu comme ça. C'est un peu différent aux Pays-Bas. Le temps a passé. Dürer est maintenant pas un concurrent, mais un grand maître. Alors, il arrive dans un milieu où les artistes essaient déjà bien établi, mais où son art était aussi reconnu. Et je voudrais vous citer quelques passages où il raconte justement son contact avec ses camarades. Alors, pour voir aussi le rapport qui s'instaure entre ce maître allemand reconnu et l'école flamande qui connaissait des artistes importants, mais qui traitait Dürer, on le verra tout de suite, comme un grand maître. Alors, dimanche le 5 août, jour de la Saint-Oswald, les peintres m'invitent dans le cercle de leur guilde, avec ma femme et ma servante. Tout le service était d'argent. La table était somptueusement dressée et le repas exquis. Toutes les femmes des peintres étaient là aussi. Et lorsqu'on me mena à ma place, l'assemblée entière, debout, fit la haie, comme si j'étais un grand seigneur. Il y avait parmi eux des personnages considérables qui, tous, me témoignèrent le profond respect, se courbant devant moi et m'assurant de leur volonté d'accomplir tout ce qui pourrait être maître agréable. Donc, il est reçu justement comme un roi, comme le roi de peintre. Et puis, des rencontres avec des artistes encore plus importants. L'artiste le plus important à Anvers à cette époque était Quentin Métis. Et là, les notations du journal de voyage sont un peu limitées. Il y a seulement un endroit où il note sa rencontre avec le grand maître anversois. Je vous la cite. « Je vais voir Quentin Métis en sa maison et je visite aussi les trois grandes places de tir. » C'est tout. Il ne dit rien sur cette rencontre avec l'artiste le plus important de l'époque. Alors, Quentin Métis, qui était d'ailleurs connu dans les cercles des savants de l'époque, il avait fait lui-même un portrait assez connu d'Érasme de Rotterdam, d'autres portraits de savants, celui-ci nommé généralement le Paracelse, il aurait mérité un peu plus dans le journal de Dürer. Mais il y a ce silence. Vous avez vu Dürer très content d'être reçu comme un roi, on fait la courbette, mais au moment où il rencontre Métis, tout de suite après ça, il va voir la place de tir. Bon, c'est un peu curieux. Ce manque a été remédié partiellement par toute une mythologie qui s'est créée postérieurement autour du séjour de Dürer aux Pays-Bas et justement autour de la rencontre avec Métis. Mais il faudrait attendre le 19e siècle. Alors le 19e siècle est une époque de mythologie artistique, donc c'est une époque où se crée, où se cristallise d'une certaine façon le mythe du génie, le mythe de l'artiste, et on dispose au 19e siècle de toute une panoplie de gloses, si vous voulez, imaginaires, autour des grands artistes. Et Nicaise de Kayser, par exemple, que vous voyez ici, s'imagine Albrecht Dürer rencontrant Quentin Métis dans un tableau des années 60 du 19e siècle qui se trouve au musée de Beaux-Arts d'Anvers. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'on donne beaucoup plus d'importance à cette rencontre. On voit Métis, l'artiste flamand, du côté droit, palette à la main, qui reçoit son visiteur. Dürer, imaginé sur la base de ses autoportraits. Il y a un certain rapport des dimensions. Dürer est un peu plus grand que Métis. Et à côté d'eux se trouvent aussi des personnages. Par exemple, vous voyez le portrait presque caché d'Érasme de Rotterdam que Métis avait réalisé d'ailleurs. Il est intégré dans cette histoire d'une rencontre. Ce serait intéressant de aller un peu plus en profondeur de ce rapport Dürer et les artistes flamands, Dürer et Métis, notamment à cause du fait que si on analyse les œuvres contemporaines ou des peu postérieures de l'artiste allemand, on voit qu'il a été assez attentif à certaines solutions de Métis et aussi d'autres peintres flamands. Donc il a appris. Il a été traité comme un seigneur, il était très content, c'est humain d'ailleurs, mais il a aussi appris. Cela se voit plutôt tant dans l'écriture que dans l'analyse des œuvres. Alors je vous montre deux exemples. Dürer, les années 20, deux portraits où tout laisse voir comment il s'est laissé inspirer par une certaine approche vis-à-vis du visage humain, typique pour les artistes du Nord. Donc ce premier plan accentué, le jeu des ombres et des lumières, et surtout une façon qui est typiquement flamande de rendre présent le portrait Turet avec des petites ruses, des petits éléments de trompe-l'œil, comme par exemple ses mains qui semblent s'appuyer sur le rebord du tableau. C'est une méthode de représentation qui, aux Pays-Bas, jouissait déjà d'une longue tradition à partir des Van Eyck, qui dure encore au XVIe siècle, et que Dürer reprend de ses amis et collègues allemands. Donc là, il y a des reprises justement de certains dispositifs, de certains découpages. Alors, son intérêt pour les pères fondateurs de la peinture flamande est assez évident. Dans le journal, il note certaines rencontres. À un certain moment, il nous parle de la visite qu'il fait pour voir le Saint-Luc de Roger de la Pasture, donc Rochier van der Weyden, probablement cette version qui se trouve à Boston. Il le note aussi, dans sa bonne manière, qu'il a dû payer un pourboire pour avoir accès à cette chapelle. Il a payé, je peux vous dire tout de suite, 2 Stuber. Il a payé 2 Stuber pour voir. C'est un détail aussi intéressant. Donc, payer. On n'était pas encore à l'époque des musées. Maintenant, on est habitué de payer lorsqu'on va voir une exposition, un musée. On n'était pas encore à Meuron. Mais Dürer, avec sa curiosité, il paye 2 Stuber pour voir ce tableau qui l'aurait intéressé. Pas seulement à cause du fait qu'il était dû à un des pères fondateurs, mais aussi de par sa thématique, la mise en abîme de l'acte de peinture, Saint-Luc en tant que patron, que peintre de la Vierge, mais j'en passe. À Gand, par exemple, il admire le chef-d'œuvre des frères Van Eyck, et là, je voudrais vous lire le passage qui nous témoigne donc cette rencontre. Le voilà. À mon arrivée à Gand, le doyen des peintres vient me rendre visite, accompagné des peintres dignitaires. Donc, c'est une rencontre des peintres. Ils me rendent des grands honneurs, me reçoivent avec force courtoisie, m'offrent leur service avec beaucoup d'égard et soupent en ma compagnie. Le mercredi matin, 10 avril, ils me conduisent à la tour Saint-Jean. D'un haut, j'admire cette belle et très grande ville qui elle-même me traite comme un très grand. C'est une belle phrase, ça. On peut s'imaginer aussi ce regard plongeant de Dürer sur la tour de la ville, maître de cette ville, mais c'est une grande ville qui le traite à lui comme grand. Donc, le rapport de Dürer à son propre ego, c'est un petit problème, il me semble. Puis je vois le tableau de Jan, celui-ci. C'est d'une superbe exécution, pleine d'intelligence, les figures d'Ève, de Marie et de Dieu le Père, tout particulièrement. Puis je vais voir les lions vivants et j'en dessine un à la pointe d'argent. Passage très intéressant lui aussi. Donc, il regarde la ville, ce rapport de grandeur. Il reconnaît toute la grandeur du tableau de Jan van Eyck. Il donne quelques exemples, mais puis il va voir les lions vivants et il dessine quelques-uns en point d'argent. Les voilà. Apparemment, il n'y a pas de différence entre la contemplation d'une grande œuvre d'art et d'une curiosité de la nature. Sans doute, il y en a. Il n'insiste pas d'une façon descriptive sur les lions, mais on peut le dire, ça fait partie de cette curiosité multiple de l'artiste qui voyage, rencontre des monuments, rencontre des gens, des visages, des œuvres d'art, mais aussi des curiosités de la nature. La curiosité de Dürer pour le monde animal, mais aussi pour l'exotique, pour le lointain, est évident. Ce serait très intéressant de rédiger à un certain moment une liste des cadeaux et des achats qu'il fait. Donc le journal le permettrait de le faire, mais je peux résumer. Il achète ou reçoit comme cadeau des perroquets, un babouin, des noix de coco, des plumes de Calcutta, et note émerveillée sa rencontre à Bruxelles avec des artefacts du Nouveau Monde. Alors, je vous montre ici deux images qui pourraient accompagner le fragment du journal que je voudrais vous citer. Mais non, cette rencontre avec les œuvres d'art, les objets venant du Nouveau Monde. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est un dessin de Hans Burgmeier qui nous montre un personnage donc, avec un bouclier aztèque et un bouclier aztèque réalisé vers 1500, du type que Dürer aurait pu voir dans les collections bruxelloises dont il parle. Voilà. Il m'a été donné de voir des choses qu'on a rapportées du nouveau pays de l'or, pour le roi. Un soleil d'or massif de la grandeur d'une toise et une lune d'argent massif de la même dimension, mais aussi deux chambres pleines d'armures. Toutes sortes d'armes étonnantes de ses habitants, des harnais, des engins de tir, des habillements fort bizarres, des literies, et bien d'autres curiosités servant à maint usage, toutes choses plus fascinantes à voir que des prodiges. Elles sont si précieuses qu'on les estime à 100 000 florins. Encore une fois, ce basculement entre cette curiosité, la nouveauté et tout de suite le prix. Aussi loin qu'est ma mémoire, je n'ai vu de ma vie aucune chose qui m'ait à ce point ravi de cœur. Il s'y trouvait des œuvres d'art vraiment prodigieuses. Je fus émerveillé de la subtilité, de la subtile ingéniosité des hommes vivant dans ces lointaines contrées. Et je ne puis trouver les mots pour dire tout ce que je vis là. Donc, ébloui par la nouveauté, les mots lui manquent. Et il s'arrête à un certain moment. Mais son émerveillement est clair. Je reviens à son rapport avec les peintres flamands. Il y a eu un des peintres avec lequel il a eu un rapport privilégié. Je voudrais insister un peu sur son rapport avec Joachim Pattinir, dont vous voyez ce tableau représentant Lot et ses filles. Pattinir, peintre du début du XVIe siècle, vivant à l'époque du voyage de Dürer. Le tableau se trouve à Rotterdam. Et probablement, il s'agit du tableau mentionné plusieurs fois dans le journal, où Pattinir apparaît comme peintre de paysage très doué, une fois, qu'il invite à ses noces, où Dürer lui fait son portrait, et occasion de laquelle Pattinir lui fait cadeau par intermédiaire d'un tableau qui est probablement celui-ci. Cet échange d'œuvres d'art entre les artistes. Dürer lui fait le portrait, lui fait cadeau le portrait. Pattinir, son collègue flamand, lui fait cadeau un paysage. C'était d'ailleurs donc, sa spécialité, mais ce n'est pas un paysage quelconque. Lot et ses filles, Sodome et Gomorre, ça fait partie d'une thématique qu'on pourrait la désigner comme apocalyptique. Et on est à une époque où les enjeux religieux, aussi politiques, laissaient vie ouverte donc, à une spéculation et c'est aussi à tout un imaginaire de ce genre. Le rapport avec Pattinir est complexe et j'insiste encore plus en vous donnant un autre passage. Il dit à un certain moment, Dürer, dans son journal, « Je fais pour mettre Joachim sur papier gris, quatre petits saints Christophe. Alors, c'est une phrase sur laquelle on peut s'interroger. C'est comment il fait ça. Donc, la solution, on l'a dit déjà dans la recherche, c'est petits saints Christophe, ce sont vraisemblablement des figures de saint Christophe faites à l'intention de Joachim Patinir, qui était un grand peintre de paysages, mais pas très à l'aise avec la figure humaine. Il lui fait cadeau de cette figure de saint Christophe avec l'enfant Jésus en mouvement pour faciliter l'intégration des figures, d'une figure de ce genre, dans le tableau de Patinir. Et en effet, le tableau de Patinir représentant saint Christophe semble avoir été attentif à certains dessins, vous en voyez à gauche un autre, donc il a intégré les idées de son collègue, ami, dans cette composition. Donc le paysage lui appartient de toute façon, la figure elle aussi lui appartient, mais elle est réalisée à l'aide amicale du peintre allemand. Échange des œuvres donc, d'une certaine façon. Mais les œuvres sont traitées, on l'a vu déjà au début de ce cours, les œuvres d'art sont traitées aussi ou utilisées comme monnaie d'échange, comme marchandise. Et je m'arrête maintenant sur un aspect important de ce qu'on appelle, avec Pierre Bourdieu, le marché de biens symboliques. Les gravures de Dürer. On a vu déjà, Dürer arrive aux Pays-Bas, et on le sait, avec tout un transport de gravures qu'il emploie comme monnaie d'échange. Citation. J'offre à l'abbé du cloître des Augustins à Anvers une vie de Marie et donne quatre suverses à ton domestique. Je fais cadeau au maître Jacob. Une passion sur cuivre. Donc, encore une fois, je souligne cette une passion sur cuivre, donc tout le cycle. Mais c'est un objet de troc. Une passion sur bois, de cinq autres pièces, et je donne quatre suverses à son domestique. Je change quatre florins pour mes dépenses, je donne deux florins de Philippe pour 14 pots de poisson. Je dessine à la craie noire le portrait d'Art Brown et de sa femme. Je remets à l'orfèvre qui a estimé les bagues des gravures pour la valeur d'un florin. Donc il y a toute une circulation ici d'objets et de biens. Des trois bagues que j'ai échangées contre des gravures, les deux plus petites sont estimées à 15 couronnes, mais le saphir l'est à 25 couronnes, ce qui fait 54 florins, 8 stuverses. J'achète un couteau à visser pour 2 stuverses. L'homme aux 3 bagues m'a payé trop peu de moitié. Je n'entends rien aux affaires. Bon, alors, c'est une jolie phrase, ça. Alors, c'est un perdant. Et puis, si je me rappelle bien, une des toutes dernières phrases du journal aux Pays-Bas, lorsqu'elle revient, en fait, elle dit « Ce voyage m'a coûté plus que j'ai reçu, donc je suis... » un perdant. Mais on a ici peut-être une loi que Bourdieu, d'ailleurs, a bien décelé pour une époque beaucoup plus récente, ce rapport entre la perte sur le plan économique et la mise en valeur du plan symbolique. Pour réussir sur le plan symbolique, pour être un grand artiste, on est inévitablement perdant sur le plan matériel. Et Dürer le laisse comprendre. Alors, il y a aussi des gravures indépendantes qui entrent dans cette circulation d'images. Et deux, surtout, semblent en avoir été utilisées comme objets d'échange. Et c'est étonnant, parce qu'il s'agit des deux gravures les plus fameuses de Dürer. La célèbre Mélancolie et Saint-Jérôme dans son étude. Fameuse de par leur thématique, mais aussi par la réalisation extraordinaire, la finesse de la réalisation artistique. Donc, la Mélancolie de Dürer, c'est une icône de l'art du temps, bénéficiait d'une bibliographie immense. Saint-Jérôme dans son studio, emblème donc du savant, également réalisé aussi avec un savoir-faire de la perspective, mais aussi des jeux des ombres et de lumière. Alors il faut seulement regarder c'est la finesse de ce filtrage de la lumière à travers les vitres du côté gauche. Donc ce sont des chefs-d'œuvre. Ce sont des chefs-d'œuvre utilisés par Durer comme monnaie d'échange. Et ce qui étonne dans toute cette histoire, c'est en effet, il me semble, le fait que ce sont ces œuvres, moi je dirais, les plus intimes, des œuvres où il a mis beaucoup de sa propre culture, sans doute, mais aussi de sa propre réflexion. C'est une circulation des images presque privées, qui vont du personnel vers le public. Alors, il faut sans doute cerner ce caractère privé. C'était quand même des gravures, donc les gravures, c'était des objets de multiplication qui devaient circuler. Mais les enjeux de ces deux gravures, notamment, étaient tellement personnels que cela ouvre un certain questionnement au moment où on voit comment l'artiste les utilisait. Ce sont, on pourrait le dire, en reprenant une idée forgée par Montaigne un peu plus tard, des résultats de l'arrière-boutique de l'espace de la réflexion de la solitude. Alors, vous vous rappelez cette phrase fameuse de Montaigne qui disait « Il faut réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, et laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude. » En mélangeant un peu l'arrière-boutique et la boutique, Durer se propose comme une figure de transgression. Le voyage de Durer aux Pays-Bas, tel qu'il apparaît à travers la lecture du journal, est en effet un unique mélange de privé et de public, de curiosité, d'expérience et de réflexion. Et je voudrais m'arrêter d'une façon plus attentive sur deux événements limites et sur deux rencontres extrêmes. La première rencontre, c'est la rencontre avec la mer, d'où aussi le titre que je donnais à ce cours. Et la seconde, c'est la rencontre avec l'âge extrême, voire la mort. Alors, je parlerai premièrement de la rencontre avec la mer. Jusqu'au voyage aux Pays-Bas, donc jusqu'à presque 50 ans, l'horizon de Durer fut marqué, on l'a vu, essentiellement par la montagne. Vous vous rappelez Nuremberg, et puis le passage, pendant le premier voyage, le passage des Alpes vers l'Italie et l'attention vouée justement à ces frontières naturelles. Pendant le séjour à Venise, le second, celui de 1506, il ne semble pas avoir fait l'expérience de la mer. Même la fête du rosaire est marquée plutôt par cette insertion octoriale que vous voyez à droite, par l'imaginaire de la montagne, pas celui de la mer. Et c'était un peu étonnant en se trouvant à l'époque à Venise. Mais il y a des raisons pour cela. J'en ai parlé un peu la dernière fois. Néanmoins, la mer sera présente dans deux œuvres importantes, mais toujours avec un je ne sais quoi d'inquiétant. Alors, dans la mélancolie, la mer est là, à l'horizon, dans tout un système. Il y a aussi l'arc-en-ciel, l'inscription, mais j'en passe parce que je ne pourrais pas aller en profondeur. Et puis, dans une autre gravure un peu antérieure, le monstre marin, d'Asmer Wunder, qui est de 1498. Figure, donc, estampe d'imagination, notamment, qui ne présuppose pas nécessairement une expérience factuelle de la mer, mais plutôt un imaginaire de l'océan, voire de la mer. Alors, l'expérience directe de la mer, semble avoir été un des événements importants du séjour néerlandais. Donc il attend jusqu'à 50 ans, ou au moins d'après ce qu'on sait, on se confronte, nous, avec un Durer à 50 ans, où la figuration de la mer est accompagnée ou remplacée par une expérience directe. Il s'agit d'un passage assez significatif sur lequel je voudrais m'arrêter maintenant un peu plus attentivement. À un certain moment, il note dans ce journal le suivant. À Tsirkzee, en Zélande, une forte marée chassée par l'ouragan a fait échouer une baleine qui a plus de 100 toises de long. Et personne en Zélande ne se souvient en avoir vu une qui fût plus d'un tiers de cette taille. Ce poisson ne peut être mis à flot. Les habitants voudraient s'en débarrasser parce qu'il infecte la contrée. Il est monstrueux, il est si monstrueux qu'ils n'espèrent pas, avant 6 mois d'ici, pouvoir le débiter et le réduire en huile. Donc, ici, on a le grand topos du monstre, de la curiosité devant quelque chose d'inouï, de pas vu. Il le note dans le journal, comment il note sur d'autres paliers des curiosités. Mais cette baleine échouée, en effet, fait partie de l'imaginaire des Pays-Bas, où les événements de ce genre n'étaient pas tout à fait isolés. Et on connaît, mais postérieurement, après Durer, par exemple, des dessins et les gravures dus notamment à Heinrich Goltzius, qui montrent en effet une baleine échouée sur la plage. Et on voit comment, à l'époque, les habitants se confrontaient avec l'immensité de ce monstre qui provenait de la mer, échoué sur terre. Le rapport des proportions entre l'humain et le monstre est là, et Durer, par ses pages, précède un peu cette figuration. C'est intéressant le fait qu'on ne connaît pas de figuration. Alors vous allez voir tout de suite, Durer va s'embarquer pour aller voir la baleine. Je vais m'arrêter sur ce passage en mer en vue de la perception du monstre marin. Mais il n'y a pas de dessin de Durer, il y a seulement un récit. Bien, et on voit que dans ce récit de voyage de Durer, curieux de voir le monstre marin, il y a quelque chose qui vient de son propre imaginaire, déjà réalisé, mais en tant que peintre, il se place dans un espace, moi je dirais, intermédiaire. Le caractère démoniaque de la mer, le danger de la mer, était un topos bien connu dans l'histoire de l'humanité. La navigation, un des grands motifs symboliques du destin humain, Durer probablement le savait très bien. Et du point de vue de l'imaginaire de la figuration iconographique, dans la première moitié du Cinquecento, la mer avec ses forces est un événement, un élément important. Donc Léonard de Vinci, vous le savez très bien, a employé beaucoup de sa réflexion sur la force de l'eau. Et des peintres tels Palma Vecchio, que vous voyez à droite, avaient réalisé des tableaux comme celui-ci qui s'intitule « Burrasca in mare », qui a été un tableau tout à fait central pour la représentation de la force de la mer. D'ailleurs, loué par Vasari, puis par Lomazzo. Donc il y a à côté du tableau de Palma il Vecchio toute une littérature critique. Mais je reviens à Durer. Durer ne crée pas des images, mais il nous laisse ce passage curieux très narratif, c'est le passage le plus narratif probablement de tout son journal, où il rencontre, où il raconte son voyage donc en mer pour voir la baleine. Je vous donne seulement quelques extraits. La veille de la fête de la Vierge, on est en décembre, le 7 décembre, vraisemblablement. Je pars avec mes compagnons pour la Zélande. Sébastien Imhoff me prête 5 florins. Nous passons la première nuit sur le navire à l'ancre. Je laisse ces images justement pour créer ce contexte imaginaire. Images d'un côté, qui ne sont pas du Durer, et le texte du Durerien. Il fait très froid et nous n'avons rien à boire ni à manger. Le samedi, nous arrivons à Gousse, où je dessine une jeune fille en costume du pays. De là, nous partons pour Arnhemmuiden, où je dépense 15 stuvers pour mon entretien. Nous passons devant les villages engloutis et nous voyons le sommet des toits émerger de la surface de l'eau. À Arnhemmuiden, où je me suis arrêté, il m'arriva un grand accident. Maintenant, cet épisode narratif est dramatique, cette notation très mouvementée du journal. En voulant prendre terre, au moment où nous lancions notre câble, un vaisseau prêt à accoster, lui aussi, vint heurter le nôtre, avec force, alors que nous manœuvrions. Comme dans la bousculade, j'avais laissé passer devant moi la foule, j'étais encore dans le navire avec Georg Köttler, deux vieilles femmes, le capitaine du navire et un mousse. L'autre vaisseau venant donc heurter le nôtre, alors que j'étais encore dans le bateau avec ce que je viens de dire et que nous ne pouvions en sortir, le gros câble se rompit et voilà qu'au moment, au même moment, un violent coup de vent entraîna notre bateau avec force. C'est en vain que nous criâmes au secours, mais personne n'osa se hasarder. Le vent nous rejeta en pleine mer. Le capitaine s'arrachait les cheveux, criait, parce que ses matelots étaient tous descendus et que son navire n'était plus assez chargé. Nous étions envahis par la peur et la détresse, car le vent soufflait fort et qu'il ne se trouvait que 6 personnes à bord. Je dis au capitaine de prendre courage, de mettre son espoir en Dieu et d'envisager ce qu'il restait à faire. Il me répondit que s'il arrivait à hisser la petite voile, il tenterait de nous ramener au rivage. En unissant toutes nos forces, nous arrivâmes tant bien que mal à hisser la moitié de la voile et à approcher du rivage. Quant à ceux qui, de la rive, nous croyaient perdus, ils virent nos efforts, nous vinrent à l'aide et nous touchâmes terre. Jusqu'ici, le passage peut-être le plus dramatique, dans lequel se tisse, vous l'avez probablement perçu, des réminiscences d'ordre symbolique, donc l'aventure du voyage dans la mer déchaînée, mais aussi quelque chose de vécu, quelque chose de réel. Donc l'océan chaotique et la mer démonique font partie dorénavant de son imaginaire, écrit plutôt que peint. Et puis, je voudrais vous lire seulement la toute dernière phrase. Tout se passe bien et puis ils arrivent en effet au but. Lundi matin, 10 décembre, nous repartons au bateau. Nous passons devant Ver et Tsirtse, où j'aurais voulu admirer la baleine, mais la marée l'avait emportée. Pas de baleine. Donc tout pour rien. Mais l'expérience quand même est là, la grande expérience, en dépit de la disparition de la baleine, il y a eu une autre confrontation avec une autre force. Bon, second point que je voudrais aborder dans le peu de minutes qui me reste. La rencontre avec l'âge extrême, voire la rencontre avec la mort. Un des dessins les plus impressionnants que Dürer réalise pendant son séjour aux Pays-Bas, c'est ce dessin représentant, il le dit d'ailleurs dans l'inscription, un homme de 93 ans. Il note d'ailleurs « Der Mann was alt 93, donc il avait 93 ans, und noch gesund und vermoglich zu Antdorf. » Il était encore très sain, Anvers. Il vivait à Anvers. 43 ans et encore très, très en possession de toutes ses forces. Dans le journal, il note cette rencontre. Brièvement, il dit à un certain moment, « Je donne 3 stuvers à un homme d'après lequel j'ai fait une étude et 2 stuvers à son domestique. » Et probablement, toutes les études portent vers cet homme qui a été son modèle payé, un homme d'un certain âge qui a été payé justement pour cette... pour ce travail de rester en poste. Et plus tard encore, toujours dans le journal, une autre notation, « Je peins avec application, maintenant ça devient intéressant, un Saint-Jérôme pour Rodrigo de Portugal. » Alors, avant d'arriver à Saint-Jérôme, vous l'avez deviné déjà, donc ce dessin, ce portrait du vieillard sera le point de départ pour une représentation de Saint-Jérôme, quelque chose concernant les détails, la façon dont il pénètre justement dans l'aspect extérieur de la vieillesse, avec la peau pleine de rides, cette barbe blanche qui tombe en cascade. Un autre dessin, le voilà, de la même époque, montre le fait qu'il a étudié ce modèle de plusieurs points de vue. Et puis, justement, le Saint-Jérôme. Alors, le Saint-Jérôme existe encore. C'est le Saint-Jérôme qui se trouve aujourd'hui à Lisbonne. Je m'arrête un peu pour déceler aussi la façon dont le travail sur le modèle se transforme dans un tableau religieux. Donc, à partir de la curiosité devant la vieillesse, l'art extrême s'est mis en image dans une iconographie qui est l'iconographie de Saint-Jérôme, qui est le grand saint des savants. Alors, si on regarde avec attention les deux dessins et puis le résultat, on comprend quelque chose, peut-être pas tout, mais quelque chose de la démarche de Dürer, de la façon dont il construit une image. Alors, le dessin que vous voyez à gauche montre déjà donc, ce vieillard, la main appuyée, la tête appuyée sur la main, dans une attitude déjà codifiée, de la réflexion profonde. La tête que vous voyez à droite manque de détails, sauf à part le visage, mais un élément en plus, le regard vers le spectateur. Ce que, justement, dans le dessin de droite, de gauche, n'existe pas. Donc, il y a, dans le tableau final, une reprise d'un motif, le regard vers le spectateur, et une reprise d'un autre motif, la tête appuyée sur la main. Et cela pour cause, parce que Saint-Jérôme, le Saint-Jérôme de Dürer, s'adresse directement au spectateur, l'interpelle par le regard et la gestuelle. Ce grand saint des savants et des érudits est représenté dans son studio. D'ailleurs, vous avez vu, Dürer lui avait voué d'autres expériences graphiques, donc la célèbre estampe avec Saint-Jérôme dans sa chambre de travail. Maintenant, l'espace est beaucoup plus étroit. Le crucifié à gauche, les livres au premier plan, la main, la tête qui s'appuie sur la main, et puis l'autre main qui montre le crâne, donc ce memento mori, mis en avant, justement, ce rappel à la fin des jours. Entre les deux mains, une main à la tête et une main sur le crâne, il y a une correspondance assez claire pour comprendre, à travers le regard qui s'adresse au spectateur, que cette limite de la mort attend tout le monde. Je ne crois pas trop exagérer. D'ailleurs, on le sait, que ce tableau a eu une très grande fortune critique, il a été repris, copié, c'est à ce moment, ou à partir de ce moment, le modèle pour tous les Saint-Jérôme à venir. Mais en refaisant toute cette histoire, je ne crois pas trop exagérer si je le considère, en effet, comme l'aboutissement le plus haut du dernier voyage de Durer. Je vous remercie de votre attention. Le cours d'aujourd'hui est fini. La prochaine fois, nous nous séparerons de Durer et de ses voyages pour suivre notre grand représentant de l'art de la Renaissance dans ses périples. Il s'agit de Benvenuto Cellini, orfèvre et sculpteur italien, florentin. On va s'arrêter notamment sur son voyage et son séjour en France à la cour de François Ier. Tandis que le séminaire qui va accompagner le cours la première fois aura dans ses centres un autre grand artiste voyageur qui vient de loin, de la Crète, le Greco, qui va prendre pied en Espagne, où il sera connu sous le nom du Greco. Pour le séminaire, j'ai invité un des grands spécialistes dans l'art du peintre gréco-espagnol, Ferdinando Marias, qui sera ici avec nous la prochaine fois. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir dans ce séminaire le professeur Carlos Sola. Je ne manquerai pas de tact et du goût de présenter Carlos Sola ici, dans la maison où il enseigne depuis plusieurs années. Je voudrais seulement rappeler que son attention inébranlable aux valeurs de l'Europe fait partie de sa pensée et de son enseignement, ce qu'on voit encore de plus près dans les tout derniers ouvrages qu'il avait publiés. Je suis très content que Carlos Sola soit ici avec nous aujourd'hui.